Salut, salut, c'est mes petits lus. Mes petits lus, c'est le podcast du blog Écrire de la fiction. Bienvenue. Dans mes petits lus, nous parlons de lecture, d'écriture, de littérature. Allez, en voiture. Aujourd'hui, j'enregistre pour vous un article qui s'appelle « Comment nommer des personnages » et que j'ai sous-titré « À la poursuite de Bardamu ». Bardamu étant un personnage de Louis-Ferdinand Céline. Comment donc nommer des personnages? Pardon. Bien que j'ai à cœur de trouver un ton très personnel pour développer ma voix d'auteur, je n'en suis pas moins confronté aux mêmes questions que tous les écrivains. Parmi celles-ci, il en est une qui m'est chère. Quel nom donner à mes personnages? Elle m'est chère car nommer n'est pas anodin et me permet de jouer infiniment avec les mots, les doubles sens, les anagrammes, les seconds, voire troisième degrés. Alors comment choisir le nom qui va bien? Le nom de certains personnages de Toute la lumière, mon roman en cours dont les premiers chapitres sont publiés sur ce blog, s'est imposé de lui-même, dès le début, en même temps que leur fiche signalétique. La fiche signalétique de mes personnages, c'est l'ensemble de leurs caractéristiques physiques et morales, leurs valeurs, leurs forces et leurs faiblesses. Pour Mia, ce fut facile. Elle s'appelait déjà Mia, et elle avait 15 ans, bien avant que je sache si elle était grande ou petite, sage ou rebelle. Ce personnage est apparu muni en tout premier lieu de son prénom. D'autres, plus difficiles à cerner, ne se laissent découvrir que petit à petit. Ils ont plutôt quelque chose à faire dans l'histoire, et je suis capable de leur bâtir une identité sans avoir la moindre idée concernant le détail de leur état civil, jusqu'au moment où leur nom s'impose, parfois après des heures de recherche. Quand je dis quelque chose à faire, je veux dire que dans mon imagination, ces personnages sont apparus par leur fonction dans l'histoire avant toute autre caractéristique. Beni Orsello est de cela. Son patronyme m'a donné du fil à retordre. Je cherchais quelque chose de simple, mais pas trop, de passe-partout, mais qui renseigne un peu. Et puis, j'ai trouvé. C'est-à-dire que j'ai ouvert les yeux sur ce qui était sous mon nez depuis le début. Son prénom est un diminutif, son nom de famille est anagrammatique. À vous de trouver, c'est facile. Hein. Orsello, O-R-S-E-L-O, quel anagramme on peut faire avec ça, à vous de voir. Hein. Dès que la solution m'est apparue, tout est devenu très clair dans mon esprit et j'ai pu commencer à écrire à son sujet. Ce que nous dit David Lodge à ce sujet est très intéressant. D'après David Lodge, je cite, comme Shakespeare l'a observé, une rose sous un tout autre nom s'en tirait aussi bon. De ce point de vue, les noms propres jouissent d'un statut à la fois bizarre et intéressant. Notre prénom nous est en général attribué avec une intention sémantique parce qu'il évoque pour nos parents une connotation agréable ou une promesse que nous tiendrons ou pas par la suite. Inversement, le nom de famille est habituellement perçu comme arbitraire, quelle que soit la force descriptive qu'il ait pu avoir jadis. On ne s'attend pas à ce que M. Berger, notre voisin, garde des moutons et on ne l'associe même pas mentalement à cette activité. En revanche, s'il s'agit d'un personnage de roman, les associations pastorales et peut-être bibliques ne manqueront pas d'entrer en jeu. Dans un roman, les noms ne sont jamais neutres. Il signifie toujours quelque chose, ne serait-ce que leur banalité. Nommer un personnage est toujours une étape importante de sa création. Fin de citation. Ce qui nous engage à nous méfier de la facilité, encore une fois. Nous avons tous en tête ces coïncidences extraordinaires. Madame Beaupied vend des chaussures, Monsieur Tête Vide est un peu simplé. Ma chère maman me disait que dans le quartier de son enfance, Belleville, il y avait un pâtissier du nom de Mouille-Farine et un croque-mort appelé Mort-de-Froid. C'est bien possible. Elle concluait toujours par « ça ne s'invente pas ». L'avait-elle inventé? Mais elle avait raison, ça peut s'inventer bien sûr, mais dans un roman, ça ne passera pas. La réalité dépasse toujours largement la fiction. Mais la fiction terre de liberté, doit pourtant savoir se tenir à sa place. Les allusions se feront discrètes, elles seront la plupart du temps codées, même grossièrement. Voyons quelques allusions transparentes. Bien décryptées, certaines allusions sont pourtant transparentes, quoique porteuses de sens, sans pour autant manquer de poésie et de créativité. L'alter ego et anti-héros de Louis-Ferdinand Céline, de son vrai nom Louis-Ferdinand des Touches, ne s'appelle-t-il pas Ferdinand Bardamu? Quel drôle de nom propre! Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Bardamu? Décomposons-le. Barda, mu. Ah oui, c'est l'histoire d'un soldat alors. Oui, en effet. C'est l'histoire d'un jeune homme qui entre dans l'armée, qui s'engage pour la guerre de 1914 et qui, dès lors, va devoir se mouvoir avec son barda sur le dos. Barda, mu. Dans le même ordre d'idées, Pancelin est le héros de Virgile Giorgiu dans La Tunique de peau que je vous recommande si vous ne l'avez pas lu, que l'on pourrait comprendre comme pansement de lin ou quelque chose d'approchant, ce qui lui va comme un gant à ce cher Pancelin. Quand Franz Kafka, dont entre parenthèses le patronyme Kafka signifie chouka, c'est-à-dire un oiseau, nomme le personnage principal du procès, il décide de ne le désigner que par son prénom et une initiale, Joseph K., lui retirant ainsi un peu d'humanité, ce qui colle à merveille avec l'ambiance oppressante du roman. Camus, lui, n'attribue pas de prénom à Meursault, personnage principal de L'étranger. Il lui confère un rôle social, c'est ce qui importe. L'intériorité du personnage nous restera un mystère. Les héros romantiques, à contrario, sont désignés par leur prénom. Paul et Virginie, Roméo et Juliette. Hein? Mais au fait, à quoi ça sert un nom? Eh bien, pardon, avant toute chose, si vous avez bien lu ce qui précède, vous savez que le nom d'un personnage me sert à pouvoir écrire à son sujet. En fonction de celui-ci, en effet, il ou elle n'aura pas la même origine sociale ou géographique, la même hérédité, les mêmes comportements ou réactions. Par-delà les questions de lignée, le nom suggère aussi le caractère. Tout en sachant que si le prénom attribué est courant, il y aura de fortes chances pour que le lecteur fréquente déjà quelqu'un ou quelqu'une portant le même prénom, ce qui aura pour effet d'influencer son approche. Pour Maric du blog Mécanisme d'Histoire, plus encore que révéler des éléments de l'identité de vos personnages, leurs noms et prénoms vont réveiller des préjugés dans la tête de vos lecteurs. Ne négligez pas le poids de ces images pour votre lecteur, mais évitez un maximum des clichés. Fin de citation. Le plus important est donc d'être à l'aise avec ce nom, qu'il soit naturel et permette d'écrire en toute tranquillité. Attention aux jeux de mots faciles et aux pirouettes langagières qui pourraient, à la longue, se révéler lourdes à traîner. Attention aussi au contexte. Ne pas nommer R2-D2 le page d'Aliénor d'Aquitaine. D'après Vincent Gaufretot, auteur de SF et de fantasy, il y a, je cite, 5 façons d'affubler un sobriquet à son personnage. Première façon, lui créer un nom totalement imaginé à partir de rien, ou presque. Deuxième façon, l'affubler d'un nom tiré de ceux qui existent déjà. 3. Utiliser un mot commun ou plusieurs. 4. Lui composer son patronyme, ce qui n'est pas exactement la même chose que créer. 5. Ne pas le nommer du tout. Je suis tout à fait d'accord, mais pour cette dernière option, elle est valable pour une fiction courte, nouvelle, poème, chanson, mais ne peut, selon moi, dans un roman, concerner que les seconds couteaux, des personnages additionnels, des figurants. Je ne m'imagine pas, pendant 300 pages, raconter l'aventure palpitante de « La fille au banilon ». Je manque peut-être d'imagination. Même Joseph K. pourtant s'appelle Joseph K., pas le type du procès. Mis à part les exercices de style des nouveaux romanciers, par exemple Georges Perec, mais c'est un autre sujet. Les trois principes de Nicolas. Nicolas Kempf, du site écriturelivre.fr, définit 3 principes pleins de bon sens à garder à l'esprit que je lui emprunte respectueusement. Principe numéro 1, ne pas s'accrocher à un nom. Je ne peux qu'être d'accord avec lui. Le processus lent et solitaire de l'écriture peut m'emporter loin de là où j'avais prévu d'arriver. À ce sujet, vous pouvez voir mon article « La seule différence entre Ernest Jiggens et moi ». Il se peut en effet qu'un nom qui colle parfaitement à un type de caractère se révèle finalement un peu bof lorsque celui-ci aura évolué, surtout si je n'avais pas anticipé cette évolution sous la forme qu'elle a finalement prise, ce qui n'est pas rare. Ne pas m'attacher au nom de mes personnages, mais plutôt à la cohérence de mon histoire. Principe numéro 2, privilégier la vraisemblance. Là aussi, je suis d'accord. Le lecteur risque de décrocher s'il bute sur l'obstacle d'un nom totalement hors contexte. Voir R2-D2 et Aliénor d'Aquitaine dans un paragraphe précédent. Je possède toute liberté de jouer avec les noms, mais s'ils sont par trop décontextualisés, que ce soit fait exprès et que je puisse expliquer pourquoi autrement que par « je trouve ça marrant ». Il y a peut-être un rebondissement de l'intrigue qui surviendra plus tard à cause de ce nom bizarroïde, mais ne mettons pas le lecteur dans l'embarras en train de se demander « d'où ça sort ça ?» en pleine scène d'amour ou de meurtre, au risque de le perdre à jamais. Principe numéro 3. Créer les personnages pour eux-mêmes. Bien oui, laissons-les acquérir un peu d'épaisseur, un peu de profondeur. Ne pas en faire des vignettes ou de pâles copies de l'auteur. Certes. Si j'ai de la chance, mon personnage passera peut-être à la postérité. La consécration suprême étant bien sûr de passer dans le langage sous la forme d'un nom commun. Rastignac ou Pipelé, Don Juan ou Bécassine. Il lui faudra, pour réussir ce tour de force, un caractère bien trempé. À noter que Rastignac nous renseigne assez bien sur l'état d'esprit du personnage prêt à tout bouffer pour réussir. Il a la niaque. C'est peut-être de là que vient ce mot niaque d'ailleurs. Si vous en savez plus à ce sujet, je suis preneuse. Je suis toujours preneuse de votre savoir, j'aime bien échanger. Pipelé, quant à lui, est un concierge chez Balzac. Un concierge ? Non, le concierge, l'archétype du concierge. Tout le monde sait que les concierges sont bavards comme des pies. Et Pipelé nous a donné Pipelette, autre nom commun familier de la concierge parisienne, qui n'existe plus guère à notre époque de digicode, hélas. Est-il encore vraiment besoin de présenter Don Juan ? Oui, je sais, ça ne marche qu'en français. Et alors ? Quant à Bécassine, venue du nom commun Bécasse, elle y retourne sous une autre forme. Bécasse nous donne le nom propre Bécassine, qui produit à son tour le nom commun Bécassine, désignant toute personne un peu Bécasse. La boucle est bouclée. Un petit jeu pour passer le temps. Il est facile de s'entraîner à nommer. Il est un jeu que je pratique de temps en temps, en particulier dans les transports en commun ou les files d'attente. Il faut bien s'occuper comme on peut. J'attribue un nom et un prénom aux inconnus autour de moi en tenant compte uniquement de leur aspect extérieur. Comment s'appelle cette dame assise sur le siège d'à côté dont le panier à provisions m'empêche d'user de l'accoudoir ? Ce monsieur qui promène son jeune chien et s'en mêle les pieds dans la laisse ? Ou bien, quel est le nom de ce beau quadragénaire solitaire qui patiente à l'embarquement ? Pardon, monsieur, excusez-moi. Ne vous appelez-vous pas ? On peut rêver. Appréciez les lectures. Que tout cela ne nous détourne pas d'une lecture récréative. Ne nous arrêtons pas à chaque prénom rencontré pour nous demander à quoi l'auteur pouvait bien penser au moment du baptême et enclencher des fouilles approfondies. Les ressources en ligne ne manquent pas, que ce soit pour vérifier la signification d'un prénom ou savoir quel nom de famille était le plus courant en Lorraine en 1914. Je vous donne une liste de sites actifs, il y en a plein d'autres. Dans cet article, j'ai également cité Vincent Gaufretot, Nicolas Kempf et Maric. Voici le lien vers leur site avec tous mes remerciements. À la semaine prochaine. Voilà, mes petits lus, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Oh.